D'ailleurs, si vous souhaitez rendre à la voix d'or du Burkina Faso qui vient de s'éteindre, n'hésitez pas, RFI vous donne la parole.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Nous sommes de retour pour la deuxième partie d'Appel sur l'actualité. C'est la libre antenne. Vos commentaires, vos réactions sur l'actualité de votre choix. 20 minutes pour revenir sur les événements qui vous ont marqué ces derniers jours. C'est l'occasion, vous le savez, de nous sensibiliser aussi à des sujets dont on ne parle pas suffisamment, selon vous, dans les médias. En tout cas, vous nous rejoignez, vous lancez le débat, où que vous soyez à travers le monde, en France ou à l'étranger. RFI vous donne la parole. 33 9 693 693 70 09 693 693 70. Si vous nous appelez de France, Michel, vous êtes en région parisienne. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes membre d'une association de défense des droits de l'homme et vous profitez de la libre antenne pour nous interpeller sur le sort de Wafa Sharif, une militante marocaine du mouvement du 20 février. Alors c'est un mouvement qui est né durant le printemps arabe au Maroc et cette femme a été condamnée à un an de prison pour allégation mensongère de torture. De quoi s'agit-il, Michel ?
Eh bien, elle a été enlevée suite à des sittings de solidarité avec des travailleurs en lutte dans la zone franche de Tanger. Elle a été enlevée, elle a eu des sévices et des menaces graves. Et quand elle a porté plainte contre X, elle s'est vue, en fait, devenue, finalement, de la victime en accusée. Et elle a été, il y a eu un jugement au début du mois d'août.
Mais elle a été enlevée par qui ?
Ah ben, elle a été enlevée, tout le monde sait ce que c'est les enlèvements de la police secrète, enfin de la police privée, puisque ce sont des gens, c'est une pratique courante maintenant au Maroc, après avoir été expérimentée au Sahara occidental. On enlève des gens qui revendiquent leurs droits, on les emmène à l'extérieur des villes, on leur fait des sévices. Un jeune homme d'ailleurs a été violé le mois précédent, a été aussi lui aussi condamné à 3 ans de prison, et donc elle a été donc enlevée. Elle a porté plainte contre X. La police s'est dénoncée elle-même puisqu'elle s'est trouvée qu'elle était accusée injustement, alors que bon, tout le monde connaît ces pratiques-là.
Donc, en tout cas, elle a été condamnée à un an de prison pour allégation mensongère de torture. Quelle est la suite pour cette militante marocaine ?
Dirhams d'amende et 50 000 dirhams pour la partie civile, c'est-à-dire que les gens qui l'ont enlevé, ils recevraient la valeur de 5 000 euros, vous imaginez. Alors maintenant, ils vont aller en appel. Ce qui est grave, c'est que moi, j'ai voulu assister à ce procès en tant qu'observateur de mon association et que j'ai été arrêté pendant 7 heures au commissariat de police pour pas que j'assiste à cette audience. Donc c'est vraiment des procès qui n'ont pas lieu d'être parce que il y a eu beaucoup d'infractions à la procédure pénale. Il y a eu une trentaine d'avocats qui sont venus, dont un ancien bâtonnier, qui sont venus la défendre. C'est pour vous dire l'irrégularité des choses.
Ouais, son principal avocat a dénoncé, lui, un verdict politique injuste.
Bien sûr, c'est un procès politique auquel on n'a pas le droit d'assister.
Michel, merci de nous avoir interpellés sur cette actualité. Bonne journée, bon courage à vous en région parisienne. Quel sort pour Ama Amadou ? C'est la question que tout le monde se pose. Ama Amadou, je vous le rappelle, c'est le président de l'Assemblée nationale du Niger. Il a trouvé refuge au Burkina Faso depuis mercredi, suite au vote par le bureau de l'Assemblée nationale de sa levée d'immunité. Il est soupçonné de complicité de supposition d'enfant. Il faut dire que sa femme, la femme du président de l'Assemblée nationale, est accusée de s'être attribuée la maternité d'un enfant dont elle n'a pas accouché, en l'occurrence deux jumeaux. C'est l'affaire du trafic présumé de bébés qui défraie la chronique depuis maintenant 2 mois au Niger. Ibrahim, bonjour.
Bonjour, monsieur Juan.
Vous nous appelez de Besançon, en France, et vous êtes choqué, vous, par le comportement d'Ama Amadou, le président de l'Assemblée nationale du Niger.
En effet, pour une personnalité de sa trempe, je me dis c'est dommage, d'autant plus qu'il aspire à diriger le pays. Vaut mieux faire face à la justice, s'expliquer. Il est présumé coupable, il n'est pas encore coupable. Il n'a qu'à aller démonter le dossier monté par le gouvernement que de fuir ses responsabilités.
Et en fuyant ses responsabilités, comme vous dites, en prenant la fuite, en quittant clandestinement le Niger, pour vous, c'est, vous l'interprétez comment? Comme un aveu de culpabilité, comme on peut le lire d'ailleurs dans de nombreuses réactions sur la page Facebook de l'émission?
Eh bien, à mon humble avis, il se reproche quelque chose, d'autant plus que si véritablement il se croit innocent, il aurait dû rester au Niger, d'autant plus qu'il a même demandé l'avis de la Cour constitutionnelle, qui est encore en attente.
Ouais, il a demandé effectivement à la Cour constitutionnelle de se pencher sur l'article 88 de la Constitution, puisque le président de l'Assemblée nationale dénonce, lui, l'illégalité de cette procédure, puisqu'en ce moment, l'Assemblée nationale est hors session, et l'article 88 de cette Constitution stipule que aucun député ne peut être arrêté hors session de l'Assemblée nationale. Donc il a effectivement saisi le Conseil constitutionnel pour savoir si cette démarche est légale ou pas, et vous dites qu'il aurait dû, il aurait mieux fait d'attendre le verdict du Conseil constitutionnel avant de prendre la fuite. Kalilou, vous êtes à Niamey au Niger. Bonjour Kalilou.
Bonjour Monsieur Wan.
Et contrairement à Ibrahim, vous dites qu'il a eu raison de quitter le pays.
Oui, ça c'est l'avis de Ibrahim. Mon avis est tout à fait contraire. Nous pensons ici, je pense personnellement que le président de l'Assemblée nationale du Niger a eu raison de quitter, vu la démarche qui est enclenchée, parce que c'est pas, l'objectif ce n'est pas de lui faire justice, mais il est déjà inculpé, a priori, il est déjà condamné. Parce que s'il n'était pas condamné a priori, le bureau de l'Assemblée nationale, en recevant la requête du gouvernement, devrait attendre la réaction de la Cour constitutionnelle qui est saisie par le président. C'est ça la forme. Parce qu'en justice, vous le savez bien, et le procureur de la République du Niger le sait très bien, en justice, il y a le fond et il y a la forme. La forme aurait voulu, pour le respect de la forme, aurait voulu qu'on attende l'avis de la Cour constitutionnelle, qui est le seul juge qualifié pour interpréter la Constitution. Nous, tous ceux qui parlent là, c'est des supputations, c'est des balivernes que les gens racontent. Nous avons foi. Alors, à notre Cour constitutionnelle, il aurait fallu que la Cour se prononce.
On a bien compris, Kalilou, ça signifie quoi? Qu'on assiste en ce moment à un acharnement contre le président de l'Assemblée nationale?
Absolument,
qui est, faut-il le rappeler, le principal adversaire politique de l'actuel président. Et Ama Amadou a dit sur notre antenne le mois dernier, au mois de juillet, au micro des RFI, qu'il avait bel et bien l'intention de briguer la magistrature suprême, donc d'être candidat en 2016, candidat face au président sortant.
C'est ça qu'ils ont compris et c'est ça son péché. Son péché, c'est de vouloir se présenter aux élections de 2016. Et comme le gouvernement du Niger sait très bien que les quatre années dans lesquelles nous sommes actuellement, ils n'ont absolument rien fait. Le Niger est classé dernier de tous les pays du monde. Ils n'ont aucun bilan à présenter. Le président Amadou est le potentiel challenger et il sera le vainqueur, Inch'Allah, des élections de 2016. Ils veulent le disqualifier ou bien le tuer ou bien le disqualifier par rapport à ses papiers, à ses dossiers, et pour qu'il ne puisse pas se présenter en 2016.
D'accord.
Et c'est ça tout l'intérêt. Et le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur est sorti publiquement pour dire qu'il ne mérite pas, depuis un an, qu'il ne mérite pas d'être président. Voilà un ministre de la République qui dit publiquement que la deuxième personnalité ne mérite pas d'être... Ouais.
Quand vous dites la deuxième personnalité du pays, vous faites référence à son statut, à sa fonction plutôt, de président du Parlement. Le débat, en tout cas, est loin d'être clos. Il suscite énormément de passion au Niger. On aura l'occasion, c'est promis, dans les prochains jours, d'y revenir avec vous tous. 33 9 693 693 70, c'est la Libre Antenne. Vous commentez l'actualité de votre choix. Philippe nous appelle de Francfort, en Allemagne. Bonjour Philippe.
Bonjour Ron.
Vous nous interpellez, vous, sur le nouveau gouvernement de Manuel Valls.
Justement, face au défi qui est la baisse du chômage, je pense sincèrement que ce gouvernement est la dernière chance du président Hollande, et je pèse mes mots, avant la dissolution de l'Assemblée. Et donc, pour cela, je crois que le président doit expliquer suffisamment à sa majorité, à la base et aux Français, une nouvelle stratégie. Vous savez, Ron, cette nouvelle stratégie, selon moi, devrait être axée sur un concept. Je prends un exemple, la gauche face à la crise. Pas la gauche au pouvoir, mais la gauche face à la crise. Et donc, vis-à-vis de ce concept,
il y aurait moyen de prendre toutes les solutions qui viendraient de la droite, qui viendraient du centre, pour en faire une sorte de récepte réaliste.
Oui. Mais excusez-moi, Philippe, quand vous dites la gauche face à la crise, on assiste, et là plus que jamais avec la nomination d'Emmanuel Macron à l'économie, à un tournant social-libéral du président Hollande. Est-ce que c'est insuffisant pour vous? Est-ce que vous pensez qu'il va droit dans le mur en appliquant cette politique comme le pensait le prédécesseur d'Emmanuel Macron, le ministre Montebourg? Vous en pensez quoi, vous?
Je crois que c'est une des mesures salvatrices, parce que vous savez, ici en Allemagne, l'ancien chancelier Schröder a essayé la même politique et il a réussi. Il a amené la gauche allemande au milieu et il s'est approché des entreprises, il s'est approché de l'initiative privée. Et c'est exactement ce dont on a besoin.
Et c'est exactement ce que fait, c'est exactement ce que fait Manuel Valls. Il s'est approché des entreprises. Il s'est exprimé devant le MEDEF cette semaine, le patronat français. Le nouveau ministre de l'économie est un pro-entreprise, en tout cas c'est un partisan du pacte de compétitivité, c'est un défenseur de l'offre. Donc ça va plutôt dans le bon sens, ce qui a été annoncé pour l'instant, selon vous?
Oui, ça va dans le bon sens, Juan, mais ce qui manque, c'est quoi? C'est cette démarche pédagogique d'expliquer ces concepts au niveau de la majorité, au niveau de la base, au niveau des Français. Sinon, tout le monde dirait, ah non, vous ne faites plus la politique de socialiste. Ah non, vous avez changé de cap. Donc, il a l'obligation de faire une sorte de pédagogie en amont, d'expliciter la situation en amont, de sorte qu'on puisse savoir que nous sommes... Nous restons des socialistes, mais nous faisons face à la crise. Vous savez, par exemple, l'exemple de l'Union européenne. François Hollande a multiplié les critiques contre l'austérité. Il n'a pas été le seul. Et même ici, en Allemagne. Pourquoi il y a grande coalition pour le moment? C'est parce que la population a critiqué aussi l'austérité de l'Union européenne. Et donc, François Hollande n'est pas le seul. Et il manque plutôt un groupe de lobby efficace, offensif, qui puisse faire bloc contre l'austérité.
D'accord.
Je crois, il est sur la bonne ligne.
Bon, bah écoutez, on verra ça et on verra surtout si les Français lui font confiance. En tout cas, selon un sondage publié par le Figaro en début de semaine, 75% des Français ne font pas confiance au nouveau gouvernement formé par Manuel Valls pour relancer l'économie. Affaire à suivre. Et on va suivre de près, évidemment, sur l'antenne des RFI la semaine prochaine, les négociations entre les groupes armés du nord du Mali et le gouvernement de Bamako. Les deux parties vont se retrouver autour de la même table à partir de lundi. En Algérie, à Alger. Amadou, bonjour.
Bonjour. Hein.
Alors, vous suivez évidemment de très près cette actualité. Vous êtes concerné au premier plan puisque vous êtes malien vivant au Mali. Et vous avez dit au Standard, la récréation est terminée.
Oui, la récréation est terminée. Et aujourd'hui, le dialogue intermalien inclusif pour un règlement définitif de la crise du Mali doit se poursuivre dans un esprit positif. Et il y a l'urgence partout. Aujourd'hui, le Mali a plus que besoin de la stabilité,
oui,
de la cohésion et de l'unité nationale.
Mais tout le monde est d'accord, Amadou, pour la stabilité du Mali. Mais vous, en tant que citoyen, quel compromis vous attendez, de part et d'autre, hein, sur les sujets qui fâchent? C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment discuter de l'intégrité du territoire, discuter du désarmement des groupes rebelles. Il va falloir que de part et d'autre, il y ait des compromis.
Oui, je veux qu'il y ait des compromis. Mais Juan, il y a un problème, puisque il y a quelques jours de cela, les groupes armés, quand ils se sont retrouvés, ils parlent à Ouagadougou, ils parlent d'un statut particulier pour la région de Kidal. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, l'État malien a fait des concessions et il est temps aussi que ces groupes armés comprennent, il est temps aussi qu'ils fassent beaucoup de concessions pour qu'on puisse aller ensemble dans la même direction. Puisque aujourd'hui, l'ensemble des peuples du Mali, de Kay à Kidal, ont besoin nécessaire de vivre, oui, ensemble.
Donc pas de statut spécial pour le Nord, que les groupes armés appellent l'Azawad. On aura l'occasion de parler lundi de ce sujet, ce sera notre débat du jour. En tout cas, Amadou, merci d'une certaine façon d'avoir comme ça, avec votre analyse, contribué à lancer le débat que nous aborderons lundi. Il nous reste 5 minutes, on a encore le temps de prendre peut-être un, voire même deux auditeurs. Michael, bonjour.
Bonjour. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous parlez de la Libye, c'est vrai que 3 ans après la chute de Muammar Kadhafi, le pays est plongé dans le chaos, les violences, on le sait, sont quotidiennes, on a parlé cette semaine du risque pour la Libye d'une guerre civile, et comme la situation n'est pas assez compliquée, eh bien, hier, le gouvernement provisoire a tout simplement présenté sa démission. Ça vous inspire quel commentaire, le chaos libyen?
Oui, le chaos libyen, je le disais encore au standard Juan, je crois que ceux qui doivent résoudre le problème libyen aujourd'hui, c'est ceux qui sont à l'origine de celui-ci. Et ceux qui sont à l'origine, on le sait, c'est la France, ce sont les États-Unis, c'est l'OTAN qui a été, pour ma part, manipulé. Je crois que ce sont ceux qui doivent revenir dans ce pays et remettre de l'ordre. Vous parlez tout à l'heure de ces milices, de ces rebelles et tout le reste qui ont été armés par ces pays occidentaux, justement. Alors, ils y sont allés sous le prétexte selon lequel le peuple réclamait le départ de Kadhafi et tout le reste. Kadhafi, 3 ans aujourd'hui parti, le peuple va plus mal que quand Kadhafi était là.
Ça veut dire que ceux qui sont à l'origine de l'intervention militaire occidentale ont abandonné ce pays?
Abandonné le pays totalement, c'est le mot, vous allez y arriver. Ils ont abandonné le pays justement après la mort de Kadhafi et le peuple qui se disait justement que les Occidentaux avaient de belles intentions à leur endroit se rend compte aujourd'hui que non, il était question de faire partie Kadhafi qui s'interposait justement à l'exploitation du pétrole et bien d'autres minerais dans le pays. Il fallait donc faire tomber ce monsieur qui faisait carrément obstacle à leur visée et tout le reste. Maintenant que Kadhafi est mort, on peut carrément et facilement piller le pays. Et moi, je vais dire justement que dans cette instabilité que l'on vit aujourd'hui en Libye, les Occidentaux eux-mêmes, ils savent que si le pays n'est pas stable sur le plan sécuritaire et tout le reste, le pillage ou alors l'exploitation du pétrole et tout le reste qui était leur leitmotiv de départ ne pourra plus être possible.
Oui, et puis c'est l'instabilité de toute la sous-région qui est en danger aujourd'hui. D'ailleurs, les 6 pays voisins de la Libye se sont réunis en début de semaine pour tenter évidemment de trouver des solutions. En tout cas, vous parliez des pays qui ont déclenché et qui ont contribué à la chute de Muammar Kadhafi, il y a notamment la France. Eh bien, le président français a demandé hier à l'ONU d'organiser un soutien exceptionnel aux autorités libyennes pour rétablir l'État, sous peine, je cite, de voir le terrorisme se répandre dans toute la région. Merci à vous, bonne journée au Cameroun. On reste au Cameroun avec Eric qui nous appelle de Douala. Bonjour Eric.
Bonjour Juan.
Vous êtes très ému par la mort samedi dernier du footballeur Albert Ebossé, attaquant camerounais qui est décédé après avoir été touché par un projectile lancé par des supporters de son propre club. Il faut tirer les leçons de ce drame, Eric.
Oui, d'abord je commencerai par dire que c'est une énorme perte pour le Cameroun, car ce jeune se présentant comme une révélation pour le football camerounais, et qui pourrait être une étoile montante, n'est-ce pas, devrait s'intégrer dans l'équipe nationale des Jeux à venir. D'ailleurs, l'équipe qui est en pleine reconstruction. Je pense que la FIFA devrait renforcer les mesures sécuritaires dans les stades, passant par une très large diffusion de messages souvent entendus, non à la violence, non au vandalisme, non à la tricherie au sport.
Oui, mais comment faire entendre ce message, non à la violence? Tout le monde est d'accord, on l'a vu d'ailleurs dans les nombreuses réactions des professionnels, aussi bien de la FIFA, de la CAF, etc. Comment les supporters violents peuvent-ils intégrer ce message?
Oui, je pense qu'ici, on a souvent en dessous des maillots des t-shirts que les joueurs mettent. Il faudrait que ce soit imposé, que ce soit écrit à chaque fois et que cela ne surprenne plus personne. Car le football ne saurait devenir une guerre. Et puis, quand tu n'es de sécurité, ça je vais insister dessus, quand tu n'es de sécurité, soit érigé dans tous les stades à la sortie des vestiaires.
Les tunnels de sécurité, mais il faudrait d'abord peut-être contrôler tous les supporters qui rentrent dans un stade, vérifier effectivement qu'il n'y ait pas de projectiles qui puissent blesser les joueurs. Merci à tous de votre fidélité. Lundi, vous le savez, nous parlerons des négociations qui commenceront à Alger entre le gouvernement de Bamako et les groupes armés. Comment parvenir à une paix durable? Ce sera notre débat du jour.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie. Transfert d'argent et paiement de facture.
Et dans 10 minutes, vous allez retrouver Claire Hédon. Bonjour Claire.
Bonjour Juan.
Alors aujourd'hui,